bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette deuxième et dernière partie de la Grande Table et dans l'actualité des idées aujourd'hui, un an après l'affaire Weinstein. Comment s'incarne aujourd'hui le féminin? Où en est le féminisme? Elle signe Le corps des femmes, la bataille de l'intime, chez Philosophie Magazine Éditeur, un court essai où elle rappelle que la révolution des femmes avait commencé bien avant les affaires de harcèlement et de violence sexuelle. Une révolution de l'intime, une réappropriation des corps, moins visible, mais sans laquelle la libération de la parole n'aurait peut-être pas eu lieu de cette manière-là. Professeure de sciences politiques, chargée de mission égalité et diversité à l'université de Reims où elle enseigne, auteure déjà de La révolution du féminin, paru en 2015 chez Gallimard, Camille Froidevaux-Metterie est notre invitée. Pour un féminisme heureux, positif, optimiste, se plaît-elle à rappeler, ça tombe bien, nous aussi. Bonjour à vous, Camille Froidevaux.
Bonjour.
Merci d'être avec toi. Un optimisme qui n'empêche pas de rester lucide sur les inégalités persistantes, sur les violences et leurs causes, sur les structures de domination. Quel féminisme défendez-vous précisément, notamment sur votre blog aussi, Féminin Singulier, qui a été à la source de ce livre?
J'ai pour habitude de le qualifier d'incarné, ce féminisme, pour signifier tout de suite qu'il s'agit de parler du corps des femmes. En quelques mots, l'origine de cette réflexion, de ma part, elle est assez singulière, puisque c'est en constatant, dans mon expérience vécue, que le féminisme disait finalement assez peu de choses de certaines des conditions incarnées de l'existence féminine, que peu à peu je me suis intéressée à ces questions, et qu'il m'est apparu qu'il y avait là quelque chose à creuser, que le rapport des femmes à leur corps tel qu'il est présenté par le féminisme, se jouait bien évidemment d'abord sous le signe de la domination masculine et de l'aliénation, mais qu'il y avait sans doute aussi un peu autre chose à aller chercher derrière cette dimension, quelque chose de plus positif précisément.
Dans cet ouvrage, Le corps des femmes, vous faites aussi un point sur la révolution féministe, comme on a tendance à la qualifier assez rapidement, sur les batailles aussi, les combats qui ont été menés par les femmes et les féministes tout au long du XXe siècle. Un récit, un retour sur l'histoire qui nous amène forcément à nous demander où on en est aujourd'hui. Alors il y a eu la bataille du vote, il y a eu la bataille de la procréation, celle du travail, la bataille de la famille, celle du genre, et aujourd'hui celle de l'intime, c'est-à-dire que toutes les précédentes sont complètement réglées, que tout a été acquis, conquis de haute lutte, ou est-ce qu'il reste encore dans chacune des combats à mener? Vous parlez aujourd'hui de ce tournant génital, c'est l'expression que vous employez, que vous décrivez dans Le corps des femmes. Qu'est-ce que c'est ce processus engagé, selon vous, au début de cette décennie, cette nouvelle bataille?
Si vous me permettez, justement, je vais faire un petit retour sur l'histoire très rapidement pour vous répondre aussi sur la question des différentes batailles qui ont précédé la bataille de l'intime. Ces batailles sont à concevoir en fait comme une accumulation de projets et de luttes. Et l'histoire féministe, en fait, elle est cumulative. Il ne s'agit pas à chaque fois de considérer que le thème du travail ou le thème des rapports genrés ou des stéréotypes de genre est réglé en quelque sorte. Ces batailles se succèdent dans le temps, mais elles s'additionnent également jusqu'à cette nouvelle bataille, donc que j'appelle la bataille de l'intime. Alors, la réflexion peut paraître un peu contre-intuitive parce que s'il y a bien quelque chose qui court comme un fil rouge tout au long de l'histoire de la lutte et de la pensée féministe, c'est bien le corps des femmes. Donc, il ne s'agit évidemment pas de dire que c'est quelque chose de nouveau ou d'inédit, mais simplement de repérer que si, notamment dans le moment de la bataille de la procréation qui correspond à peu près à la seconde vague féministe dans les années 70, si durant cette période, évidemment, la question du corps procréateur des femmes était centrale, dans les décennies qui ont suivi, les féministes se sont consacrées à d'autres combats, eux aussi nécessaires, et ont, d'une certaine façon, délaissé la question du corps des femmes. Et ce qu'il se passe depuis ce tournant génital du féminisme, que je repère, il est tout à fait récent, puisque je le date des années 2010, effectivement. C'est un phénomène, en quelque sorte, de réinvestissement de cette dimension corporelle, mais dans ce cas-là de plus intime, c'est-à-dire sur tous ces sujets qui ont trait à la génitalité féminine.
Mon corps est à moi, c'est effectivement un slogan qui ne date pas d'hier, hein, beaucoup entendu dans les années 70, dans le combat pour le droit à l'avortement. Ces révolutions-là, celle du corps, cette révolution-là, est-ce que vous direz que c'est une révolution manquée ou une révolution amorcée mais restée en suspens dans ces années-là?
Oui, absolument. C'est une révolution en cours qui est réinvestie de façon assez passionnée et intense aujourd'hui, mais qui réactive des combats qui sont bien anciens, comme par exemple le combat contre les violences faites aux femmes, mais en comment dire, en permettant une forme d'appréhension englobante de la question, c'est-à-dire que la démultiplication des thèmes génitaux, l'apparition d'une réflexion sur les règles, sur les produits de protection hygiénique, sur des maladies comme l'endométriose, la question de la découverte, entre guillemets, du clitoris, la lutte contre les violences obstétricales, et bien évidemment le mouvement MeToo et cette grande dynamique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, tout cela en vient à former comme une sorte de constellation et fait qu'aujourd'hui, ce thème génital est devenu quasi central dans les combats féministes.
Génital, vous n'avez pas un mot plus joli, plus...
Écoutez, il faut bien parler de ce dont on parle.
D'accord, on reste à génital alors.
Oui, moi je préfère. Enfin, je trouve que ça dit les choses comme elles sont.
Oui, mais ça a un côté très biologique, presque organique.
Mais ce qu'il faut comprendre précisément, c'est que le corps n'est pas que biologique. C'est le sens un peu de la démarche phénoménologique que j'engage, si je peux me permettre ce terme peut-être un peu barbare pour certains. Mais il s'agit de montrer précisément que la dimension incarnée, corporelle, physiologique, biologique, elle a des implications sociale, qu'il faut la penser justement à travers le prisme du pouvoir et des rapports de pouvoir, et donc ne pas avoir peur non plus de nommer les choses par leur nom.
Voilà ce que d'autres avaient fait, notamment avec le monologue du vagin, dont les mots avaient choqué, mais qui était aussi une forme de réappropriation par les mots de ce qui peut-être nous appartient, et là c'est un nous féminin. On évoquait ces différentes batailles dans cette révolution féministe pour l'égalité homme-femme. Dans la bataille de la procréation, il y a eu aussi, avec la contraception, tout un combat qui a été mené dans la rue pour commencer, avec ensuite la possibilité de prendre la pilule. À l'époque, il faut quand même se souvenir, au début des années 70, les femmes ne voulaient pas toutes être soumises à ça.
Est-ce que vous prenez la pilule ?
Oh non.
Est-ce que vous auriez peur de prendre la pilule ?
Oh oui.
Pourquoi vous auriez peur ?
Parce qu'il y a peut-être d'autres conséquences qu'on peut avoir. Non, ça ne tente pas, non.
Il faut voir les naissances qui vont venir après. Oui, c'est ça qu'il faut voir.
On a entendu tellement des choses, hein. Là-dessus, alors, faut pas...
Vous croyez que c'est dangereux ?
Pour moi, oui. Ce n'est pas normal. Pas confiance, quoi.
Vous auriez peur, si vous preniez la pilule, d'être malade ?
Oui.
Moi, je dis que c'est l'homme qui doit faire attention, puis c'est tout.
40 ans plus tard, on assiste peut-être à un mouvement contraire, à un rejet de la pilule par certaines jeunes femmes aujourd'hui. Une inquiétude qui a été relayée de nombreuses fois par des youtubeuses sur les réseaux sociaux, sur internet, qui font part de leur expérience d'arrêt de la pilule. Écoutez.
Il y a 3 semaines, j'ai décidé d'arrêter la pilule. Enfin, il y a un peu plus de 3 semaines, j'ai décidé d'arrêter la pilule, mais il y a 3 semaines, j'ai arrêté la pilule. Et comme c'est un peu un sujet de société, mine de rien, je me suis dit que j'allais peut-être vous proposer de vous en parler régulièrement pour évoquer éventuellement les changements qui arrivaient dans mon corps. Parce qu'en fait, il y a tellement de façons différentes de vivre ce genre de sevrage que je me dis que plus on est renseigné, et mieux c'est.
Donc personnellement, j'ai arrêté la pilule il y a à peu près 5 mois. J'en avais fait parfois allusion sur ma chaîne dans certaines vidéos. Et vous avez été pas mal à me poser des questions par rapport à ça. Pourquoi j'ai arrêté, comment ça s'est passé. Et je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de faire une vidéo où je vous explique donc tout ça, tout mon parcours, tout ce qui s'est passé avec la pilule.
Pourquoi j'ai arrêté la pilule ? J'ai arrêté la pilule parce que je ne me sentais pas réceptive positivement à la pilule. Je sentais que c'était quelque chose qui pouvait être nocif pour moi et je le ressentais en fait. Donc tout simplement, au bout d'un moment, au lieu de le ressentir et de m'en plaindre, j'ai décidé d'arrêter moi-même.
Camille Froide-Vaumettry, est-ce que là on est en train d'assister à une marche arrière de l'histoire du féminin ? Est-ce que ces jeunes filles sont en train de saboter les combats de nos mères ?
Je ne crois pas, même si aux yeux de certaines pionnières de cette bataille, effectivement, la chose peut être interprétée ainsi. Non, je crois qu'il s'agit simplement d'une des conséquences du mouvement d'émancipation qui consiste pour les femmes à considérer que dans les domaines corporels qui les concernent au plus près, elles ont désormais, et c'est une chance inouïe, et je parle évidemment uniquement des femmes occidentales, elles ont désormais la possibilité de faire tous les choix possibles, que ce soit donc dans leur rapport aux moyens de contraception, dans leur rapport à la maternité, à la sexualité. Et quand on est féministe, je crois que la cohérence impose que l'on respecte ces choix que font les femmes, sans discriminer tel ou tel au motif qu'il serait peut-être soit régressif, soit à côté de la plaque féministe. Ce qui importe, une fois encore, c'est de prendre la mesure des avancées qui nous permettent précisément d'être libres par rapport à toutes ces questions.
Dans la révolution du féminin, Camille Froide-Vaumettry, vous avez déjà raconté cette révolution. Vous évoquez ce tournant du génital, que serait ce processus engagé en début de décennie, cet ultime combat des féministes, un mouvement de libération de la dernière citadelle encore aux mains des hommes, celle du corps des femmes dans sa dimension génitale. Ce tournant, il a été amorcé, on le disait donc, bien avant la séquence Weinstein de l'an passé et la vague mondiale de révélations qui a suivi. Vague qui vous a peut-être emporté, mais qui vous avait pas surprise. Comment ça s'était passé juste avant de revenir au tournant? Pour vous, quand tout ça est arrivé, vous avez été surprise ou
surprise par l'énormité de l'événement et puis par ses conditions propres. Ce qui m'a davantage surprise, c'est les suites, notamment dans notre contexte français, de cette vague, avec quelque chose que je repère chaque jour davantage, c'est-à-dire passer le premier moment d'euphorie, dans le champ féministe notamment, le retour d'une vieille tradition française qui est celle du silence, puisque nous n'avons pas assisté en France à des développements aussi intenses qu'on aurait pu l'espérer. Je pense notamment au champ politique que je connais bien pour l'avoir étudié, notamment en ayant interrogé des dizaines de femmes politiques. J'étais un peu étonnée. Je m'attendais chaque jour à des révélations sur tel ou tel homme politique dont je savais qu'il devait être un peu dans ses petits souliers. Et puis, rien ne s'est passé, si ce n'est dans des secteurs un peu concernant notamment les mouvements de jeunesse. Et c'était ça, véritablement, mon étonnement.
Donc là, vous n'allez pas donner des noms, évidemment. Ce n'est pas forcément le rôle de cette émission ni de votre réflexion. Mais vous auriez, vous, trouvé bénéfique dans le mouvement qui était en train de se jouer, dans cette libération de la parole, que des noms, plus de noms soient donnés, que de cas soient mis en avant sur la scène publique.
Ce qui me paraît important, c'est de sortir d'une première étape de ce mouvement qui a consisté à publiciser, à rendre visible, à rendre audible un certain nombre d'agissements de la part des hommes notamment. Je pense à toute cette série de sites paye ta fac, etc. C'est-à-dire des tribunes données aux femmes qui leur permettaient de rendre compte des violences qu'elles subissaient, mais toujours de façon anonyme. Je pense aussi à l'initiative de collaboratrices de parlementaires qui avait engagé la même démarche. Ce que je trouve, disons, suffisant, enfin dans le sens où il faut que cela s'arrête, c'est qu'on ne peut pas à la fois mettre au jour l'existence et la prégnance d'un certain nombre d'agissements détestables et en même temps que cela ne soit suivi d'à peu près rien, c'est-à-dire notamment de rien de concret dans le domaine judiciaire. Donc il ne s'agit pas de dénoncer et encore moins de faire œuvre de délation, encore des termes qui ont été utilisés vraiment d'une façon totalement contre-productive et fausse en réalité, mais il s'agit de rendre concret et palpable ce phénomène que l'on découvre en permettant qu'il se traduise par un certain nombre de décisions, notamment politiques, qui permettront non seulement d'en prendre la mesure, mais aussi d'en terminer avec cela.
Cette libération de la parole, elle aurait pu avoir lieu aussi, selon vous, même si ce mouvement de réincarnation du corps féminin, lui, n'avait pas déjà débuté. En somme, est-ce que ce mouvement de libération de la parole s'inscrit parfaitement dans ce tournant génital que vous racontez ?
Oui, je crois qu'il s'agit de quelque chose de crucial qui consiste à montrer que pendant toutes ces décennies de lutte féministe, il y avait un domaine qui était resté en quelque sorte en dehors du mouvement d'émancipation et de revendication des droits. Ce domaine, c'était le domaine sexuel. On pourrait peut-être remplacer génital par sexuel, si vous préférez.
S'il vous plaît.
Puisqu'il s'agit de à peu près la même chose, finalement. Et dans ce domaine de la vie sexuelle des femmes, l'égalité et la liberté qui étaient les revendications principales portées haut par les féministes dans tous les autres domaines étaient en quelque sorte ignoré, ou en tout cas n'était pas intégré dans ces thématiques. Donc le tournant génital ou sexuel du féminisme précisément consiste à rapatrier en quelque sorte les thématiques corporelles, intimes, dans le champ des droits à revendiquer.
Ce que MeToo a surtout réactivé, Camille Freud-Vaumetry, c'est la question du consentement, notion juridique, notion philosophique aussi, comme le rappelait la philosophe Geneviève Fraisse dans un récent essai, et politique. Et en même temps, on peut dire que ce mouvement MeToo a aussi activé des freins. Est-ce qu'il constitue pour vous une menace sur le désir, sur la séduction qu'on considère souvent centrale en France ?
Je crois en réalité que c'est tout l'inverse. Je crois qu'il y a dans ce mouvement MeToo une forte dimension associée à la revendication d'une sexualité enfin libre, enfin égalitaire, enfin épanouissante. Je crois que le mouvement MeToo parle bien davantage de plaisir sexuel qu'on a bien voulu le dire et qu'il est absolument autre chose que la réactivation d'une quelconque guerre des sexes. Quand les femmes révèlent les violences sexuelles dont elles sont victimes, ce qu'elles disent, c'est qu'elles aspirent à vivre une sexualité de façon libre et égalitaire, qu'elles aspirent en quelque sorte à une redéfinition des relations entre les hommes et les femmes, qui fasse précisément du consentement quelque chose de central, mais la façon dont moi je l'interprète est sans doute moins juridique que certaines. Je crois que le consentement, c'est précisément le fil rouge de toute relation intime, de toute relation sexuelle. C'est un langage de désir en réalité, puisque nous savons toutes et tous que lorsque nous entrons dans une relation de séduction, une relation amoureuse, à chacune de ces étapes, nous avons la possibilité de signifier à l'autre notre consentement, notre refus, notre envie d'aller plus loin ou au contraire de s'arrêter. Nous le signifions avec des signaux physiques, avec des mots aussi, et il va de soi que tout se passe bien quand cet échange est mutuel et réciproque. Là où il pose problème, c'est quand ce langage de désir qu'est le consentement mutuel n'est pas entendu, n'est pas reconnu comme tel et que un des partenaires refuse en quelque sorte de voir en l'autre l'expression d'un désir singulier, l'expression d'une sexualité propre et singulière. Donc je crois qu'on peut se passer, on peut absolument se passer d'une forme de formalisation du consentement. Je ne crois pas qu'on ait besoin d'établir de quelconque contrat ou de cocher des cases sur une appli dédiée. Je pense que les choses se passent...
Ça existe, hein.
Bien sûr, c'est pour ça que j'en parle. Mmh. C'est le fameux modèle anglo-saxon que même en France, parfois, certaines défendent. Alors, je pense que dans l'idéal, il faudrait pouvoir se passer de ces dispositifs. Et je crois que les hommes ont très bien compris, la plupart d'entre eux, la majorité d'entre eux, le rôle qu'ils avaient à jouer, peut-être dans une certaine forme d'évolution de leur rapport intime à la sexualité, pour accompagner les femmes dans cette redéfinition placée sous le signe du consentement.
Chacun pourrait avoir à y gagner.
Absolument.
Et c'est ça aussi le contrat tacite qui peut exister sur un renouveau du consentement dans les relations hommes-femmes. Et à ce propos, un an après l'affaire Weinstein, ce tournant évoqué, génital ou sexuel, ce tournant se confirme pour vous aujourd'hui, s'accélère même peut-être d'une certaine manière. L'affaire Weinstein n'a pas considéré, si je vous comprends bien, une rupture, encore moins une marche arrière dans ce qui était en train de se jouer depuis le début de cette décennie. Par quoi passe pour vous urgemment aujourd'hui la redéfinition des rapports hommes-femmes, de la relation hommes-femmes ?
Eh bien, elle passe par l'ouverture de quelque chose qui là aussi peut-être faisait défaut, c'est-à-dire l'ouverture d'un discours, d'une discussion publique sur la sexualité. Et cela signifie notamment que l'on accepte enfin, ou que l'on s'autorise peut-être plutôt, enfin, à parler de plaisir, à évoquer la question des orgasmes féminins et masculins, et à considérer que derrière une soi-disant révolution sexuelle, en réalité, pas grand-chose ne s'est passé. Ce qu'il faudrait faire, en réalité, c'est aller au bout de cette dynamique révolutionnaire, en l'accomplissant véritablement, c'est-à-dire en se saisissant par les mots et par les corps également de ces questions sexuelles.
Voilà, c'est une libération des mots, une libération de la parole et surtout une libération de la connaissance pour laquelle vous plaidez dans cet essai « Le corps des femmes, la bataille de l'intime, le plaisir, comment ça marche ?» Vous pouvez revenir sur quelques-uns des stéréotypes qui ont la dent dure pour vous aujourd'hui encore. Où est-ce que l'ignorance est la plus crasse en la matière ?
Le premier d'entre eux, c'est cette vieille opposition fermement enracinée dans la vulgate psychanalytique qui évoque l'existence de deux types d'orgasmes féminins, clitoridien et vaginal, avec une déconsidération du premier qui serait immature et du second qui serait le seul véritable orgasme mature. C'est une conception absolument erronée et on le sait finalement depuis assez peu de temps, on le sait depuis que la science a investi enfin, dans les années 90 du XXe siècle, l'organe du clitoris comme un organe digne d'intérêt, ce qui n'avait pas été pendant très longtemps. Et nous savons qu'en réalité, il n'y a d'orgasme que clitoridien. Je ne vais pas entrer dans le détail, il y a beaucoup de sites et d'ouvrages qui en parlent. Mais ce que cela signifie notamment, c'est que cela permet de déculpabiliser celles à qui on fait croire depuis trop longtemps que l'absence de plaisir et l'absence d'orgasme suite à une relation hétérosexuelle type, donc qui passe par la pénétration, soi-disant quasi nécessairement, celles qui n'auraient pas de plaisir dans ce type de contexte seraient disons, imparfaites, d'éternelles insatisfaites et d'une certaine façon des frustrées de toute éternité. La sexualité est bien plus complexe que ces schémas binaires. Elle est notamment, elle doit notamment aussi se débarrasser de ce schéma qui oppose les hommes actifs d'un côté aux femmes passives de l'autre. Il faut terminer notamment avec ce concept de disponibilité sexuelle qui placerait les femmes dans une position permanente de réceptivité et de passivité.
Alors l'exemple du clitoris, il est juste ou il est bon, et reste à savoir à partir de quel âge, quand faudrait-il commencer à comprendre un garçon comment ça marche et une fille comment ça marche, et le clitoris, qu'est-ce que c'est ?
Dans ce manuel scolaire se cache une petite révolution. Dans l'appareil reproducteur féminin, à côté de la vessie et du vagin, les élèves de 4e vont découvrir pour la première fois cet organe, le clitoris, dans son intégralité. Jusque-là, l'organe féminin du plaisir se faisait discret.
Donc là, on a un ouvrage qui date de 98 et on a donc tous les organes qui sont légendés, sauf le clitoris. Donc on a quelque chose là, un petit diverticule qui a été schématisé, mais il n'est pas légendé. Donc ici, on a un ouvrage de 2008, seule la vulve a été légendée. Le clitoris est visible, mais il n'est pas légendé.
Mal représenté ou carrément absent des manuels scolaires, il aura donc fallu attendre 2017 pour que le clitoris soit représenté correctement, avec le gland de quelques millimètres visible à l'extérieur et la partie interne, ses deux arches d'une dizaine de centimètres.
C'était important de l'avoir dans un manuel parce que ça permet de comparer aussi avec l'anatomie masculine, où on a toujours eu une anatomie complète.
Vous êtes de plus en plus nombreux, Camille Froidevaux, à souhaiter de vrais cours d'éducation sexuelle à l'école, donc en France. Pourquoi ? Apprendre à connaître son corps et le corps de l'autre, apprendre aussi peut-être les nouvelles formes de sexualité. Est-ce important d'expliquer ça aux enfants ou aux ados ?
C'est important parce que aujourd'hui, le seul vecteur de connaissance pour les adolescents, c'est quasiment la pornographie. Les cours d'éducation sexuelle qui existent, mais qui ne sont d'ailleurs qu'assez rarement mises en œuvre de façon rigoureuse, sont bien davantage des cours, disons, d'éducation à l'hygiène sexuelle, consistant à apprendre aux adolescents comment se protéger contre les maladies, contre les grossesses non désirées. On ne leur dit rien à ces adolescents de la beauté, de la découverte de la relation amoureuse, de la complexité aussi du corps tel qu'il se sexue progressivement. Et plutôt que d'éducation d'ailleurs à la sexualité ou d'éducation sexuelle, je préfère parler d'éducation à la sexuation, c'est-à-dire apprendre aux jeunes gens d'abord le respect de leur propre corps, qui passe par une connaissance précise de celui-ci, le respect du corps de l'autre, et puis leur apprendre aussi qu'en la matière, les choses se font d'une façon graduée, que la sexualité n'est pas quelque chose que l'on découvre et dans laquelle on bascule du jour au lendemain, et que l'on peut accepter de cheminer en quelque sorte par étapes sur un chemin qui conduit à une relation sexuelle pleinement aboutie. Et ça passe aussi justement par la déconstruction de tous ces stéréotypes qui sont associés aux relations sexuelles, et là pour le coup peut-être encore davantage du côté masculin que du côté féminin. Je trouve choquant, dérangeant même que les jeunes hommes aient en tête ce modèle pornographique d'une sexualité masculine toute puissante qui passe par une nécessaire pénétration et qui est placée entièrement sous le signe de l'érection triomphante. Du côté des garçons aussi, les choses ne sont pas si simples. Du côté des garçons aussi, par exemple, l'éjaculation n'est pas systématiquement synonyme d'orgasme. Il y a toute une éducation à refaire sur ce schéma que j'évoquais tout à l'heure, l'activité et la puissance d'un côté, l'injonction à la performance aussi sexuelle, qui fait que par exemple aux États-Unis, on sait qu'aujourd'hui, chez les jeunes hommes de 18-25 ans, pas loin de 10% d'entre eux prennent du Viagra. Alors pour prolonger ou faire durer leur relation sexuelle, mais aussi pour se prémunir contre d'éventuelles défaillances. Enfin, ça dit quand même beaucoup des angoisses de ces jeunes garçons. Donc pour se défaire de ce schéma, tout le monde sait très bien qu'un enfant ne parle pas à ses parents de sexualité. Cela doit passer
parce que c'est le premier argument que beaucoup doivent vous objecter en ce moment, de ceux qui nous écoutent aussi dans leur tête. C'est à la famille qu'il revient de transmettre cela, aux mères, aux filles, aux pères, aux fils peut-être. On a le sentiment que c'est une transmission qui doit être familiale. Est-ce que l'école est le bon lieu pour ça en fait ?
Et quand bien même on le penserait, et quand bien même ce serait vrai que cette fonction incombe à la famille, que penser des familles dans lesquelles, pour des raisons culturelles ou sociales, cette communication-là est quasiment impossible. Mmh. Je ne crois pas que ces sujets doivent être enfermés dans la sphère privée. C'est d'ailleurs le propre du mouvement que nous observons, c'est-à-dire une publicisation des questions intimes. N'en déplaise à ceux qui trouvent cela moralement choquant, c'est ainsi que les choses se passent.
J'en reviens à cette révolution du féminin. Vous faites partie, et vous l'assumez comme telle, vous, d'une génération de féministes pour qui le plaisir est aussi une arme d'émancipation et un sujet de revendication. Est-ce qu'il faut en passer aussi, accepter que le plaisir est un mot d'ordre, un slogan aussi important que les autres ?
Le droit au plaisir ? Je ne sais pas. Je l'inclurai en fait dans cet ensemble de revendications qui concernent le corps féminin. Je crois que c'est pas tant la question du plaisir qui est centrale que celle de la réappropriation par les femmes de leur corporéité en tentant de la soustraire non seulement au champ de la domination masculine, mais aussi au champ médical par certains aspects. On l'a pas évoqué, mais dans ces combats multiples, il y a la question des violences obstétricales et gynécologiques qui est importante. Le fait que dès lors qu'une femme est enceinte, elle se retrouve en quelque sorte ventre et pieds liés dans les mains des médecins qui en font ce qu'ils veulent, en la dépossédant en quelque sorte de cette expérience vécue importante. Ce qui signifie aussi, sur ce volet de la maternité, que les femmes puissent assumer socialement leur non-désir d'enfant. C'est pour moi un combat féministe important dont on parle assez peu là aussi. Il est possible pour une jeune femme aujourd'hui qui ne souhaite pas avoir d'enfant de recourir à une technique simple et définitive, par définition, qu'est la stérilisation. Eh bien aujourd'hui, c'est tellement compliqué concrètement de trouver un praticien qui accepte de stériliser des jeunes femmes que l'on se repasse sous le manteau le nom de ceux qui l'acceptent, quand autrefois on se passait le nom des praticiens qui pratiquaient l'avortement. Une fois encore, ce qui m'importe dans tous ces sujets corporels, c'est le principe central de liberté.
Et on pourrait aborder quand même dans cette lignée-là la question de la PMA, puisqu'elle a fait là encore l'objet de vastes débats lors de la réunion du comité consultatif de bioéthique et qu'un premier avis vient d'être rendu sur ce sujet, sur l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires ou aux couples de femmes. Est-ce que techniquement, là, pour vous, il y a aussi une nouvelle forme de contrôle à travers ces processus, ces outils de procréation? Est-ce que le progrès scientifique est lui aussi en train de s'immiscer dans l'intimité du corps des femmes?
Il s'y est mis, effectivement, et je dirais même plus, il accompagne les évolutions sociales qui caractérisent l'existence des femmes aujourd'hui. Il y a en quelque sorte un décalage entre la temporalité sociale des femmes qui font plus d'études, qui travaillent de plus en plus, et puis leur temporalité intime, et notamment maternelle. Il faut le dire, et ça m'étonne parfois que les féministes aient tant de mal à le reconnaître, certaines féministes en tout cas, les femmes ont une capacité procréatrice qui est limitée dans le temps. Et pour celles qui travaillent et qui ont choisi de mener une existence pleinement sociale, ce peut être synonyme d'un décalage dans leur désir d'enfant. Et alors il se trouve que la médecine procréative les accompagne et peut les aider à accomplir leur projet parental en dépit du fait que le temps passe et que leur fécondité diminue. Je ne considère ça pas du tout comme une régression, même comme un progrès. Je crois que simplement, il faut non seulement y réfléchir, mais encadrer légalement et éthiquement, peut-être pour certains sujets, ces questions. Et une fois encore, j'y insiste, prenons conscience de la chance que nous avons, nous occidentales, de pouvoir ainsi, dans ces domaines, bénéficier de ces progrès.
13h23 sur France Culture, notre invitée aujourd'hui, la politologue Camille Froidevaux-Métairy. Elle est professeure de sciences politiques à l'Université de Reims, où elle s'occupe aussi des questions liées à l'égalité et à la diversité, auteure précédemment de La Révolution du Féminin et aujourd'hui d'un nouvel ouvrage, essai Le corps des femmes, la bataille de l'intime, qui paraît chez Philosophie Magazine Éditeur.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Dans la vie sexuelle en France, nouvelle enquête de Janine Mossu-Laveau. 15 ans après sa première recherche sur la sexualité des Français, la politologue notait une bien plus grande liberté et libération des personnes interrogées dans leur manière de formaliser aussi leur ressenti et leur sexualité. Les femmes, dit-elle, aujourd'hui me parlent beaucoup plus de plaisir, le décrivent. La nouveauté, c'est la remise en cause de la prééminence de la pénétration aussi. Aujourd'hui, on parle autrement de son corps et de sa sexualité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, en partie, j'imagine, Camille Froidevaux-Métairy. Mais est-ce qu'il reste encore des normes sociales, des dictats qui, selon vous, brident le désir, brident cette liberté aussi sexuelle?
L'aspiration à une sexualité libre et épanouissante, elle est indissociable d'une nécessaire réappropriation de son propre corps dans sa dimension, j'allais dire, esthétique, c'est-à-dire dans la façon dont chaque femme se considère au sens très propre du terme, c'est-à-dire s'accorde du respect et de l'attention dans sa dimension corporelle. Et là, évidemment, c'est un énorme sujet pour les féministes parce que nous vivons cette situation un peu paradoxale d'une immense liberté dans la façon dont nous pouvons vivre notre corps et en même temps en subissant d'énormes contraintes. Ce paradoxe, il faut l'assumer, l'affronter et réfléchir en féministe à ces questions qui font que nous assistons à une tentative de formatage généralisé qui fait que les femmes sont aujourd'hui de plus en plus contraintes d'adopter les formes, au sens propre du terme, que le champ médiatico-commercial veut leur imposer, notamment pour ce qui regarde leur corps féminin, leurs seins, leurs fesses, leur beauté.
Les seins auxquels, et les soutiens-gorge auxquels vous consacrez d'ailleurs votre dernier post sur votre blog Féminin Singulier. Beaucoup de normes sociales sont aujourd'hui plus commerciales que patriarcales, rappelez-vous. Et pourtant, on a tendance à croire que la publicité avait aussi fait sa révolution.
We're worth it.
Because I'm worth it. I'm worth it.
Dans les années 70, les mouvements de lutte pour les droits de la femme battent leur plein dans les rues. Mais dans les publicités, les femmes n'ont pas encore le droit à la parole. Ce sont leurs maris qui s'expriment pour elles. C'est une jeune publicitaire de 23 ans qui va trouver le slogan « Parce que je le vaux bien » et révolutionner les codes publicitaires de l'époque.
J'utilise la coloration la plus chère du monde. Ce n'est pas que je ne fasse pas attention à l'argent, c'est que je fais encore plus attention à mes cheveux. Ce n'est pas juste une couleur, je veux une belle couleur. Ça ne me dérange pas de dépenser plus pour L'Oréal parce que je le vaux bien.
C'était très novateur parce que les femmes parlaient elles-mêmes de leurs sentiments et de leur expérience avec le produit.
Et si je paye plus cher, c'est parce que c'est le meilleur et je le vaux bien.
Ah là là là, la beauté, prendre en main aussi la couleur de ses cheveux. Est-ce qu'on est passé pour vous aujourd'hui, Camille Froidevaux-Métairie, à une autre forme de domination, une autre forme d'aliénation? Est-ce que une aliénation a remplacé l'autre, de celle du patriarcat d'hier à celle du marché aujourd'hui?
Oui, les choses se passent un peu de la sorte, mais ce que je crois surtout, c'est que il faut veiller à ne pas, comment dire, il faut veiller à considérer que les femmes sont dans ces questions esthétiques dans une capacité réflexive qu'on ignore trop souvent. Donc, je rejoins la plupart des interprétations qui soulignent le poids absolument écrasant des injonctions à toujours plus de jeunesse, toujours plus de beauté, de minceur. Les injonctions, par exemple, aujourd'hui, à un corps lisse, sans plus aucun poil. Bon, tout ça est absolument écrasant pour les femmes. Mais en même temps, les femmes sont toujours, je crois, dans la capacité de réagir face à ces injonctions de façon personnelle, émancipatrice, et aussi capable d'une certaine forme de distance vis-à-vis de ces dictates, qui passe précisément par une réappropriation de leur corps dans sa dimension esthétique. Et je crois que ce serait une erreur que de continuer à dire que, en prenant soin d'elles, les femmes perpétuent la domination masculine. Je crois qu'il s'agit de bien, bien autre chose qui a à voir avec la construction de soi, dans un rapport de soi à soi, qui passe par le choix d'une certaine forme de représentation de soi-même dans l'espace public, qui bien sûr s'explique par des siècles d'histoire, des siècles durant lesquels les femmes savaient et savent encore aujourd'hui qu'en sortant dans le monde, elles allaient être regardées, objets de scrutation et peut-être même agressées. Mais aujourd'hui, ce qui est nouveau, et il faut s'en réjouir, c'est que les femmes peuvent, vis-à-vis de cette obligation à paraître, elles peuvent, là encore, faire tous les choix possibles. Et dans ce sujet, pour tous les autres, ce qui compte, c'est leur liberté.
Et c'est une bataille culturelle aussi.
C'est aussi une bataille culturelle, bien sûr.
Merci beaucoup à vous, Camille Froidevaux-Métairie. Le corps des femmes, la bataille de l'intime. Ce nouvel essai vient de paraître chez Philosophie Magazine, éditeur. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, pour la Grande Table des idées, à Maya Neskovic et Laura Dutech, pour la Grande Table des cultures, à Oriane Delacroix et à Henri Leblanc, avec l'aide précieuse, comme chaque jour, pour la préparation de Jeanne Copé et de Jordan Joseph. À la réalisation aujourd'hui, c'était Marie Placé avec Jean-Frédérix.